Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
On verbalise pas toujours ses valeurs, mais je crois qu'on les incarne par son comportement. Et l'hommage que peuvent nous rendre nos filles en disant voilà, ça on l'a hérité de vous, ça on l'a compris à travers vous, est une façon de nous dire que on s'est pas si mal débrouillé, quoi. Voilà.
Première business angel de France, psychologue de formation, leader et pionnière de ce que l'on appelle les chasseurs de tête. Entrepreneuse et jardinière, elle a créé son cabinet de conseil en recrutement de cadres en 1980. Elle a donc aidé une immense quantité de gens dans sa vie, et sa motivation première, c'est l'humain, l'humain et encore l'humain. Avec elle, nous avons bien entendu parler d'entrepreneuriat en France, de sa vie personnelle, de sa vision du monde, des ressources humaines dans une société de plus en plus robotisée, de la transmission par l'incarnation, mais également de défis, d'échecs et de réussites. Si vous tapez son nom sur internet, je pense que vous vous rendrez compte par vous-même que cette femme est l'impact positif par excellence. Allez maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Madame Chantal Baudron. Chantal Baudron, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast.
C'est moi qui vous remercie de faire ce podcast avec moi.
Je suis très honorée, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Et je vais commencer par vous demander de vous présenter, si c'est possible, autant professionnellement que personnellement.
Vaste question et vaste sujet, mais je vais essayer d'y répondre. Alors, sur un plan personnel, je suis mariée, mère de 3 filles et grand-mère de 8 petits-enfants. Voilà. Donc, une vie familiale bien remplie et qui me donne beaucoup de satisfaction. Mm-hmm. Alors, sur un plan professionnel, j'ai pour habitude de répondre aux journalistes qui m'interrogent que j'ai 3 vies. Je suis d'abord et avant tout conseil en recrutement de cadres. Et j'ai créé pour ce faire un cabinet il y a longtemps, en 1980, que je continue de diriger. Ça, c'est ma première vie et celle qui me prend le plus de temps parce que c'est elle qui me nourrit. J'ai une deuxième vie qui est plus récente, qui est celle de Business Angel. J'ai à un moment considéré que mes économies seraient mieux utilisées en les plaçant dans des start-up plutôt que de les faire gérer par un gestionnaire avec des portefeuilles en bourse, etc. Donc c'est une activité que j'ai et que je fais avec beaucoup de cœur parce que j'ai trouvé que c'était important d'investir, d'aider tous ces jeunes que je trouve formidables, tous ces jeunes start-upers qui sont pleins d'énergie, pleins de confiance en l'avenir, plein, voilà. Et donc je suis heureuse de cette activité. Alors ça a fait de moi la première femme business angel en France, ce qui montre que peu de femmes investissent parce que pour que je me trouve au premier rang avec un montant d'investissement somme toute assez modeste, ça montre que les femmes sont pas très présentes dans ce secteur. Et troisième vie, c'est je suis jardinière et je suis très fière de le dire. C'est-à-dire que je m'occupe d'un jardin dans une propriété que nous avons en Périgord, un jardin que nous avons créé. Et je suis le jardinier chef et j'y consacre 4 jours tous les 15 jours.
Et vous avez une rose à votre nom.
Voilà. Alors ça, c'est une partie des grandes fiertés. Je suis chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur, mais je dois dire que c'est une distinction d'avoir une rose à son nom que je trouve aussi intéressante.
Philosophiquement, c'est magnifique.
Oui, oui, oui. Puis c'est un peu d'éternité parce qu'elle me survivra.
Vous êtes présente aujourd'hui, en fait, avant de vous poser des questions un peu plus techniques, quelle est votre définition du business angel aujourd'hui?
Alors, c'est donc quelqu'un qui va investir dans une entreprise et qui va, en plus de l'investissement, apporter un peu de son savoir-faire, de son temps, de son aide. Alors, je crois que c'est aujourd'hui, on n'utilise plus beaucoup, on ne doit plus utiliser ce mot, mais dire un investisseur providentiel. J'ai entendu des personnes faire cette remarque, voilà. Alors le problème, c'est un rôle que j'essaie de jouer, mais mon temps est aussi assez limité. Donc j'ai plutôt choisi parmi les 40 start-up dans lesquelles j'ai investi, j'en ai plutôt choisi 4 ou 5.
40, c'est énorme.
Oui.
Et vous le faites en direct?
C'est-à-dire oui, je les gère en direct, mais je ne gère pas en réalité.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vous qui déterminez quelle start-up on vous propose.
Absolument.
Pas des...
C'est ça qui m'amuse le plus, d'ailleurs, la rencontre avec les start-upeurs. Et j'ai peu de temps, et donc j'ai choisi 4 pour lesquelles je suis dans leur comité stratégique, ce qui me permet de suivre de très près l'activité. Mais pour les autres, je suis un peu passive par manque de temps. Mmh. C'est-à-dire que j'attends le rapport mensuel qui dit où ils en sont, etc. Mmh. Il m'arrive d'intervenir parce que je trouve que quelque chose qui mérite d'être un peu changé. Et puis, quand on me demande de l'aide, parce que je suis dans le domaine des ressources humaines et que c'est souvent une préoccupation qu'ils ont, j'y réponds, et j'y réponds bénévolement.
Mmh. 40, c'est beaucoup. Vous les trouvez comment et quels sont vos critères pour investir dans une entreprise?
Alors, je les trouve comment? Depuis que j'ai été médiatisée comme première femme Business Angel, j'ai un deal flow, comme on dit, très important. C'est-à-dire que beaucoup de gens m'écrivent, ils trouvent sur LinkedIn, ils trouvent de l'information dans la presse et ils m'envoient leur dossier. Alors, évidemment, je suis très sélective parce que je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à chacun. Donc, j'envoie peut-être 4-5 par mois. Mmh. Et je dois dire que cette rencontre est très agréable, très intéressante, de découvrir un projet, de découvrir une personnalité. C'est tout à fait passionnant. Alors mes critères, c'est ce que je sais faire, c'est-à-dire évaluer l'entrepreneur. Voyez. Donc quand je dis évaluer, ça veut dire que la rencontre avec lui va me donner envie ou pas de croire en lui, d'investir. Alors évidemment, il faut quand même que je sois que je croie à son produit et que je crois à l'existence d'un marché. Sinon, ce serait pas pertinent. Mais c'est avant tout la qualité de l'entrepreneur.
Et du coup, ça fait que votre portefeuille d'actionnariat est très varié, je suppose.
Très varié, dans des secteurs extrêmement différents. Il y a un pôle un peu plus important que le reste, qui est le pôle RH. C'est-à-dire que j'ai investi dans une dizaine de start-up qui sont à la périphérie de mon métier.
Bien sûr.
Parce qu'aussi, ça, c'est un enrichissement pour moi de comprendre ce qui se passe autour. Voilà. Donc, et en Suisse, c'est très, très varié. Ça va d'entreprises dans le secteur de la blockchain, en passant par la parfumerie, en passant par la pâtisserie, par les casques de moto. Enfin, voilà. Donc, le secteur d'activité n'est pas un critère.
Et votre ticket moyen d'investissement environ? Alors, si vous voulez bien en parler.
Oui, bien sûr. Non, je peux tout à fait en parler. Il est modeste. Il est entre 20 000 et 50 000.
D'accord. Bon,
voilà.
Donc vous êtes au tout démarrage en général.
Voilà, c'est du seed money, enfin quasiment juste après ce qu'on appelle la love money, c'est-à-dire où c'est la famille qui a mis quelques sous pour aider le start-upper à démarrer. Et ensuite, c'est l'arrivée des business angels avant d'aller plus loin et de faire une série A, de lever de l'argent auprès des fonds, etc. Donc c'est cette phase intermédiaire qui est importante.
Bien sûr. Est-ce que aujourd'hui, j'ai entendu une interview de vous où vous disiez que la préoccupation première des startups, c'était le recrutement.
Oui.
Est-ce que c'est, alors je ne sais plus de quand datait cette interview, mais est-ce que c'est vraiment le cas encore aujourd'hui?
Absolument.
Est-ce qu'il n'y a pas un sujet de technicité,
Disons que les RH, au sens général, sont une préoccupation. Un, c'est de choisir les personnes, je vais y revenir, mais c'est aussi s'organiser, quelle priorité donner au recrutement. Est-ce qu'il faut d'abord, un CMO, ou plutôt, voilà. Donc il y a toute cette réflexion RH qui est importante. Et moi, j'ai vu des cas où des mauvais choix ont pu entraîner l'entreprise quasi au dépôt du bilan, parce que la personne ne remplissait pas son rôle. Même quand ils viennent me voir, je pense qu'ils viennent me voir parce qu'ils savent que je suis business angel, mais aussi parce que je suis dans les RH. En tout cas, c'est ce qu'ils me disent. Et ils me disent, c'est notre préoccupation principale et vous pourrez nous aider. Vous voyez, donc ça reste vrai.
Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile selon vous aujourd'hui pour des entreprises en France? J'avais évoqué une notion dans une interview précédente qui est la notion de scale-up. C'est-à-dire la partie où, à un moment, l'entreprise grandit. C'est-à-dire passe un cap où elle a besoin de recruter de plus en plus, elle a besoin de lever plus d'argent. J'ai le sentiment, et après je peux me tromper, qu'effectivement, trouver aujourd'hui 30 000 ou 50 000 euros en France, c'est pas si compliqué que ça. Mais par contre, trouver même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, c'est
Bon, après, c'est dans d'autres sphères de fonds d'investissement, etc. Mais est-ce que le middle, c'est-à-dire ce qui allez, on va dire plusieurs dizaines de millions ou à partir de 10 millions ou 20 millions d'euros, est-ce que ça bloque? Est-ce que vous sentez un blocage sur la croissance des startups en France?
Alors, je suis pas concernée puisque moi je suis plutôt investisseur au début, mais je surveille un peu évidemment ce qui se passe. C'est vrai que on lève plus facilement de l'argent, par exemple, aux États-Unis qu'en France, à la taille de l'investissement que vous signalez. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle, à partir d'un certain moment aussi, l'argent n'est plus levé qu'en France. C'est-à-dire, après, ça s'internationalise, heureusement d'ailleurs. Mmh. Voilà. Mmh. Mais c'est vrai encore qu'actuellement, je trouve que les pouvoirs publics encouragent un peu, font alors, beaucoup d'efforts de promotion pour que les investissements puissent se faire en France. C'est qu'on est des licornes, hein. C'est tout l'objectif du président actuel.
Qu'est-ce que vous avez senti justement de... Quelles sont les bonnes actions que vous avez pu analyser, parce que vous avez un parcours considérable, mais voilà, sur la durée, on va dire, sur les 10 ans qui se sont écoulés, est-ce que vous avez senti un virage pris par le politique au sens large pour aider l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a eu des mark-up comme ça qui vous ont marqué, c'est le cas de le dire? Mais des étapes où vous avez dit, tiens, ça va aider les entrepreneurs.
C'est-à-dire qu'on a eu le sentiment que le président actuel, qui auparavant était ministre de l'économie, aimait les entreprises. Bon, ça n'a pas toujours été le cas de tous les présidents, en tout cas sans doute pas de son prédécesseur. Et donc ça, je crois que ça a un peu réconforté les entrepreneurs de façon générale. Et puis il y a un certain nombre de gestes qui ont été faits effectivement qui laissent penser qu'il y a une volonté. Regardez tout ce qui se passe autour de la BPI par exemple, les différents au sein de la BPI, tous les différents investissements ou prêts que la BPI, on peut dire que c'est quasi gouvernemental, peuvent faire pour les startups. Moi, je trouve qu'ils accompagnent bien et c'est vraiment très bénéfique. Ensuite, il y a des manifestations, alors qui sont privées, mais comme, je sais pas, Vivatech, etc., qui font parler l'aide qui est faite. Moi, je trouve que c'est très positif. Hein. Peut-être que...
Mais fiscalement, vous voyez, sur des choses du quotidien d'un entrepreneur.
Ça, je saurais pas dire. Il y a eu, alors c'est pas vraiment le fait des pouvoirs publics, mais il y a eu un grand développement des incubateurs, et ça c'est bien parce que ça. Mais ça c'est des initiatives, je sais pas, comme le Crédit Agricole, etc. Mais c'est quand même impulsé un peu par les pouvoirs publics de dire voilà, il faut s'intéresser à nos jeunes entreprises et il faut essayer d'en faire des licornes. Donc,
Vous êtes entrepreneur vous aussi.
Oui, bien sûr.
Donc, vous sentez des choses au sein de votre entreprise, etc. Est-ce que vous avez vraiment senti qu'il y avait un changement positif, on va dire ?
Là, je parlais des startups disais qu'il y avait un vent positif qui soufflait dans leur direction. En revanche, moi, je trouve, alors on peut porter des jugements, je trouve que les mesures en France ne sont pas assez libérales. Si vous voulez, l'État continue d'avoir vouloir mettre la main sur beaucoup de choses qui n'est pas nécessairement nécessaire et indispensable. Quoi. Donc, je pense le gouvernement actuel n'est pas allé assez loin, voyez, dans le libéralisme. Quoi.
Est-ce que vous faites... alors, c'est un sujet, on peut en parler pendant des heures, mais est-ce que vous faites une vraie différence entre l'entrepreneur féminin et l'entrepreneur masculin? Déjà, est-ce que vous investissez de manière...
Oui, alors ça, indifféremment, dans des entreprises... Alors, j'ai fait partie à un moment de Femme Business Angel, qui était donc une façon de... Alors, c'était des femmes qui investissaient, mais elles investissaient aussi bien dans des entreprises dirigées par des hommes que par des femmes, voilà. Je crois à la psychologie différentielle des sexes. C'est-à-dire qu'une femme ne se comporte pas comme un homme. On aura beau dire tout ce qu'on veut, nier le genre, genderless voulez. Moi, je continue à penser qu'on a des psychologies différentes, des comportements différents. Alors, je dois dire que dans mes choix personnels, dans mes investissements, ça m'est complètement indifférent. C'est la qualité intrinsèque de la personne, qu'elle soit homme ou qu'elle soit femme. Il se trouve, mais je crois que ça n'a pas été délibéré, qu'un certain nombre d'entreprises dans lesquelles, j'ai pas fait la statistique, mais sont dirigées par des femmes. En particulier dans le secteur de la cosmétique, dans lequel j'ai pas mal investi. Alors, leur comportement ensuite, qu'est-ce que je peux dire? j'ai pas fait d'études, hein, donc je parle plutôt comme ça par sensibilité. Quelquefois, je trouve que les femmes sont plus sérieuses au sens consciencieuses, poussent peut-être l'étude des choses plus à fond. Voilà, peut-être un peu, si je puis me permettre de dire ça. Voilà, mais je crois qu'après, on a affaire à des gens de qualité, qu'ils soient hommes ou femmes. Quoi.
Est-ce que vous considérez que le marché du travail... Enfin non, la question est plus vaste. Vous avez donc créé votre entreprise dans les années 80.
En 80, précisément.
En 80, d'accord.
Oui.
Qui consistait à accompagner des structures dans le recrutement. Qu'est-ce que vous sentez aujourd'hui sur le marché du travail? Et pour être un tout petit peu plus précise, est-ce que LinkedIn peut remplacer ce que vous faites concrètement?
D'abord, je suis contente que vous abordez ce sujet parce que LinkedIn est mon ennemi public numéro un. Alors, c'est un peu ambivalent parce qu'à la fois, on l'utilise, donc c'est un outil pour nous. Bien mais sûr. Très objectivement, il nous a pris à nous, cabinet conseil, en recrutement, des parts de marché dans le middle management. Le top management continue quand même à marcher parce que c'est aussi une caution d'avoir un cabinet qui vous aide à faire ça et puis que les candidats potentiels pour le top management sont moins accessible. Alors que dans le middle, il est vrai que tout le monde a une grande visibilité sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn. Donc beaucoup d'entreprises ou d'RH, à travers leur RH et leur talent acquisition, vont directement chercher les gens et les recrutent. Donc moi, je le dis avec objectivité, nous avons une baisse sensible dans le middle management à cause de LinkedIn. Mais alors, si vous me demandez, est-ce qu'ils vont nous remplacer? Alors, dans l'acte de recruter, il y a deux temps. Il y a un temps où il faut trouver des compétences, hein, les hard skills. Et je dois dire qu'à travers LinkedIn, on peut le faire.
Bien sûr.
Et puis, il y a un deuxième temps, c'est d'évaluer les personnes.
Les soft skills.
Et la réussite d'une personne dans une entreprise est liée à ses compétences, certes, mais elle est liée aussi et surtout à sa capacité d'intégration à une culture d'entreprise avec un style de management qui soit en adéquation. Et ça c'est pas écrit dans LinkedIn. Hein. Donc, je pense que nous apportons notre vraie valeur ajoutée, nous les cabinets, et j'allais dire moi en particulier, parce que c'est un claim que j'ai depuis toujours, en disant la subtilité du métier, c'est dans l'évaluation des personnes. C'est sans doute lié au fait que je suis psychologue de formation. Et donc ça, on ne pourra pas être remplacé là-dessus. Mais ce qu'il faut, c'est convaincre les clients que cette phase est importante. Voilà, quelquefois, le désir d'aller vite, on a quelqu'un sous la main qui correspond à peu près, on le recrute. Bon, il y a quelques désenchantements après, et quelques clients qui reviennent nous voir en nous disant, ben voilà, je me suis trompée, aidez-moi à trouver le bon. Donc moi, j'accorde une très grande importance à cette phase, et nous avons développé d'ailleurs des techniques qui nous permettent d'aller plus loin dans la découverte de la personnalité. En particulier, je citerai que celui-là, un contrôle de référence qui est très sérieux, très bien, enfin, bien, qu'on essaie de bien faire. C'est-à-dire que pour un cadre, cadre supérieur en particulier, on va interviewer 10 à 12 personnes qui sont à 360 degrés, qui sont des hiérarchiques, des pairs ou des collaborateurs. Et on le fait avec un interview téléphonique après prise de rendez-vous, qui dure entre 30 et 45 minutes. Donc on a le temps de bien explorer les différentes facettes. Et je dois vous dire que c'est un instrument de grande rassurance, parce que quand toutes ces personnes vous disent à peu près la même chose, ça veut dire que c'est la vérité.
Voilà. C'est génial comme idée.
Ouais. Donc tout ça, LinkedIn ne vous l'apporte pas. Mais aujourd'hui, il y a un peu un désir d'immédiateté qui fait que la solution facile, c'est d'aller chercher des profils sur LinkedIn en se passant des services des cabinets. Voilà.
Il y a d'autres types de concurrents. Enfin, moi, j'ai cité comme ça LinkedIn, mais...
Dans les réseaux sociaux, c'est celui le plus important,
le
professionnel. Je crois que Facebook a des velléités, mais pour l'instant, ils n'ont pas du tout.
Comment vous vous tenez informé? Quelles sont vos best practices pour, d'une part, travailler au sein de votre entreprise, mais aussi être en tant que business angel? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Je suis assez curieuse de savoir quelle est votre journée type. Je sais que vous n'avez pas de journée type comme tous les entrepreneurs.
Non,
mais... Est-ce que vous avez des rythmes, vous voyez, des réflexes?
Oui. Alors, dans mon activité professionnelle recrutement, d'abord, il y a le management de l'équipe. Hein, on n'est pas un grand cabinet, on est 13 personnes, mmh. mais enfin, il faut quand même regarder les différents sujets. Ensuite, je suis un peu tête de pont, à la fois chargée des RP, si je puis dire, oui. parce que j'ai la chance que le cabinet porte mon nom. Donc, quand on parle de moi, on parle d'une certaine manière aussi du cabinet. Donc, j'hésite pas à être là, dans tous les fronts, d'assister à des tables rondes. J'ai même cette année et l'année dernière d'ailleurs accepté d'être coach à la BFM Academy, vous voyez, ça donne un plateau. Voilà.
C'est génial.
Cette année, c'est mon poulain qui a gagné la BFM Academy.
Félicitations, comment il s'appelle?
Il s'appelle Paris Fashion Shops.
Ouais.
Voilà. Et c'est une plateforme de e-commerce à destination des détaillants multimarques avec, en leur offrant la fast fashion, c'est-à-dire le renouvellement des... Et c'est un chinois qui a créé ça et qui a au fond fédéré le sentier chinois.
D'accord.
Vous voyez,
ok, je vois très bien.
Voilà.
Ouais, mais je l'ai entendu sur une de vos... Enfin, je l'ai vu sur Internet.
Voilà. Alors, pour continuer, donc, je suis... et puis, je suis aussi quand même dans le développement commercial. Parce que, et donc, ça veut dire que j'essaie d'avoir des idées de personnes à rencontrer. Je rencontre beaucoup de personnes pour faire connaître le cabinet. J'essaie de le faire, j'allais dire, intelligemment. Par là, je veux dire que c'est plus des rencontres qui me sont suggérées ou pour lesquelles j'ai été introduite. Je ne sais pas très bien faire de ce qu'on appelle de la prospection dans le dur. Vous voyez, alors peut-être ai-je tort, mais je trouve que c'est plus qualitatif que de rencontrer des personnes qu'on vous a recommandées.
Bien sûr.
Voilà. Donc, c'est ça. Alors après, je consacre un peu de temps, mais je dirais, 10 à 15% de mon temps aux startups, recevoir les entrepreneurs, parce qu'il faut les rencontrer, c'est ça qui est le plus important. Regardez quand même un peu les dossiers, ils vous fournissent après des éléments. C'est pas que je crois beaucoup au business plan, mais enfin, il faut quand même regarder un peu quelle est la projection. Et puis, il y en a un certain nombre comme je vous l'ai indiqué, que je suis. Et puis, j'ai mon espace de respiration, 4 jours, tous les 15 jours, dans ma campagne, au milieu de mes roses, puisque dans mon jardin, j'ai une collection de 1040 variétés de roses.
Donc, incroyable. Ouais. 1040 variétés
voilà.
de roses.
Donc, là-bas, c'est un espace où je me ressource beaucoup.
D'autant qu'il y a un parallèle entre faire pousser... Enfin, je sais que c'est un peu bêta ce que je raconte, mais c'est quand même un parallèle de faire pousser et encourager la croissance.
Mais tout à fait.
D'une certaine manière. Jardiner, finalement, c'est...
Ouais, mais c'est ça. Il y a beaucoup
très proche de votre
similitude. Et voir pousser les... C'est un peu comme élever des enfants, vous voyez. Et voir pousser son jardin, c'est aussi une grande satisfaction.
Et d'ailleurs, si je puis me permettre, après, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais je suis toujours curieuse de savoir ce qui comptait pour vous en termes de transmission à vos enfants. Quelles étaient les valeurs fondamentales à transmettre à vos enfants? Et à vos filles, a priori, puisque vous avez des filles.
Oui, alors, on ne formalise pas ou on ne. Pas toujours ce à quoi on croit, hein, mais je pense que nous l'avons, mon mari et moi, pas si mal fait que ça, parce que. Mais je pense que c'est.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Plus, comme on dirait dans l'entreprise, un management par l'exemple, vous voyez.
Bien sûr.
Et donc, on ne verbalise pas toujours ces valeurs, mais je crois qu'on les incarne par son comportement. Et l'hommage que peuvent nous rendre nos filles en disant voilà, ça, on l'a hérité de vous, ça, on l'a compris à travers vous, est une façon de nous dire qu'on ne s'est pas si mal débrouillé. Quoi, voilà. Et c'est quelle satisfaction pour des parents, je vais dire une banalité, mais que de voir des enfants bien dans leur peau, réussissant bien, mes filles ont toutes fait des brillantes études, ayant choisi un bon conjoint, ayant de beaux enfants, donc il y a là une grande, grande satisfaction. Quoi. On a servi à quelque chose.
C'est indiscret de vous demander ce que fait votre mari ?
Pardon ?
C'est indiscret de vous demander ce que fait votre mari ?
Non, bien sûr, il a été industriel pendant une grande partie de sa vie. Il a d'ailleurs fait un des premiers LBO en En France, puisque quand Creuse-Loire a déposé le bilan, il était président d'une des filiales et il l'a racheté avec deux de ses collaborateurs. Voilà. Donc il allait. Et aujourd'hui, après avoir maintenant vendu ses entreprises, même s'il en a quand même gardé une encore aux États-Unis, il est devenu lui-même investisseur,
d'accord,
mais à plus grande échelle. Et c'est lui qui gère notre, on va dire, family office. Voilà.
Ok. C'est génial, donc vous travaillez un peu ensemble.
Oui, mais ouais, quand même, chacun a son domaine. Moi, il trouve que je bricole un peu, mais voilà, c'est ma petite poche à moi d'investissement.
Tiens, en parlant de l'investissement, est-ce que vous pensez qu'il y a des inégalités dans l'investissement ? C'est-à-dire l'accès à l'investissement, c'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'étais en école de commerce.
Oui.
Est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait justement une école de commerce, quelqu'un qui vient d'un environnement plutôt modeste ou voilà, qui n'a pas eu la chance, on va dire, d'évoluer dans une famille où on lui a permis de faire des études ou je ne sais pas, enfin quelqu'un qui vient d'un secteur, oui, non privilégié. Après, c'est dans non privilégié.
Vous avez sans doute statistiquement vrai, mais voyez, ce matin, je recevais quelqu'un qui aujourd'hui est un investisseur et qui me racontait sa vie. Et à 16 ans, il a créé sa première start-up, qui était une chose assez simple. Il était de famille très modeste et il était en train de faire ses études. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le goût d'entreprendre, il dépasse, je crois, tous les éléments, les paramètres socio-culturels, etc. Je crois. Hein. Et il avait ça en lui et il a magnifiquement réussi. Mais en revanche, on peut dire que le fait d'être d'un milieu déjà peut-être ouvert à l'entrepreneuriat et d'avoir fait des études va vous ouvrir beaucoup plus de portes, certainement. Mmh. Ça facilite. Mmh. Mais je crois que le goût d'entreprendre, et je le vois dans en province, des exemples de gens qui avaient très peu de diplômes et qui ont créé des super boîtes. Donc moi, je pense que c'est ça qui est le fondamental, le goût d'entreprendre. Quoi. Mmh. Avec évidemment les qualités qui vont avec, mais c'est dans les tripes, ça, vous voyez ce que je veux dire?
Voilà, alors justement, c'est les qualités pour entreprendre selon vous, quelles sont-elles? Et encore sous question dans la question, c'est est-ce que tout le monde est fait pour entreprendre?
Certainement pas, mais certainement pas. Alors les qualités, d'abord je dirais en premier c'est la motivation, c'est ce que je disais, le goût pour, c'est-à-dire la motivation, avoir envie, quelque chose qui est très aux tripes, enfin, je veux dire c'est pas dans la tête, c'est dans les tripes, et ils vont, alors certains vont avoir des échecs, etc., mais il y a ça qui est fondamental, hein. Donc je sais pas si je peux parler de, alors après on peut dire un bon entrepreneur est quelqu'un qui a telle et telle caractéristique, mais ce qui est premier, je répète, c'est quand même ça, c'est la motivation. Mmh. Alors après, les qualités, quand on le voit avec les startups, c'est quand même la première, c'est la persévérance. Parce qu'il y a tellement d'obstacles qui jonchent leur chemin que si le découragement les gagne, c'est foutu. Et donc, vraiment la persévérance. Quoi.
Voilà. Vous avez vraiment, enfin, vous avez ce rôle, vous sentez vraiment soutien psychologique auprès de vos jeunes pousses.
Oui, parfois il y a des moments durs, des moments de grande solitude. Mmh. Et en particulier, il y a des choses qui sont liées. Alors, vous voyez, par exemple, une start-up peut très bien connaître un bon développement. J'ai eu le cas récemment dans une de mes participations. Et ils ont tellement vendu pour la deuxième année qu'ils n'avaient plus les moyens de financer la production. Vous voyez, c'est un truc bête comme chou, mais ils n'avaient pas levé assez d'argent. Et compte tenu du développement très fort...
C'est la croissance rapide, en fait.
Voilà,
c'est
donc en train de BRF. Ouais. Et vous voyez, par exemple, à ce moment-là, lever de l'argent, ça prend du temps. Heureusement, nous sommes un certain nombre à avoir cru à cette entreprise. On a fait un bridge pour l'aider à passer cette mauvaise phase. Vous voyez. Mais c'est un moment dur, hein, de grande solitude pour l'entrepreneur.
Vous avez des exemples de catastrophes, de choses graves au sens voilà, qui des gens qui se sont vraiment mis en péril, des gens. Vous avez comme ça des exemples de,
ce que j'ai
sans
vu souvent,
citer de nom pour autant. Hein,
mais ce que j'ai vu souvent, c'est que le choix qui était fait au départ d'investir, de créer un produit pour un marché donné. En chemin faisant et assez vite, se rendre compte que ce marché est pas bon, que le produit ne va pas être en adéquation. Et donc, il y a ce qu'on appelle le pivot. Si l'entrepreneur est un véritable entrepreneur, il ne va pas dire j'arrête ma start-up, ça ne marche pas. Il va dire qu'est-ce que je peux faire à la place. Et je connais un exemple dans le domaine de la cosmétique où une jeune femme très talentueuse, sortie tout juste d'une école de commerce, a commencé à penser à des produits de soins pour les hommes. Et très vite, elle s'est rendue compte que ce marché était peut-être un peu étroit et qu'elle aurait du mal. Et donc, elle a pivoté en créant une nouvelle collection de produits de soins, hommes et femmes, mais surtout femmes, à base de cannabis, de chanvre, avec beaucoup d'innovations dans les produits, etc. Et ça marche bien, vous voyez. Donc, elle s'est pas découragée. Elle était entrepreneur.
Je viens d'un environnement où on m'a toujours dit l'argent, il est chez le client.
C'est pas faux.
Au sens où la levée de fonds, en fait, aujourd'hui est devenue, et moi je lutte contre ce discours parce que souvent les gens disent, ah ouais, il cartonne, il a levé tant de millions, ah mais c'est super. Et en fait, souvent les gens se heurtent à la non-réalité de cette donnée parce que c'est pas parce qu'on lève de l'argent que la boîte est pérenne, la boîte est rentable ou peut espérer une rentabilité. Quel est votre point de vue sur ça, en fait?
Je partage le vôtre, c'est-à-dire que l'argent est un moyen. Et que si en même temps, cette illusion, vous savez, était liée, dans les années 2000, il y a eu comme ça la bulle Internet, etc. Donc, ce qui était chic, c'était de lever beaucoup d'argent et on se valorisait à des sommes folles, etc. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on est revenu à des choses beaucoup plus réalistes. Et donc, l'argent est un moyen, mais un moyen qui permet le développement. Mais ce qui compte, c'est le chiffre d'affaires. Alors, en revanche, il faut accepter l'idée, et tous les investisseurs ne l'acceptent pas, que pendant un certain temps, l'entreprise, évidemment, va perdre de l'argent. Voyez, elle va brûler ce cash. Mais si elle le brûle pour son développement, ce n'est pas grave. Mais il y a des gens qui ne le comprennent pas. Le start-up, il y avait un des actionnaires qui disait « Vous réduisez votre effectif, vous réduisez les frais, il faut absolument que vous reveniez au point mort. » Alors moi, je ne partage pas du tout ce point de vue. Je crois qu'effectivement, il y a tout un temps de l'investissement et cet argent sert à ça, pour développer, pour construire, pour recruter. Mais il faut quand même qu'après, c'est pour ça que j'aime votre phrase, l'argent chez le client, il faut à un moment donné qu'il y ait du chiffre d'affaires. Et moi, je pousse, enfin, je veux dire, je commence à être rassérénée quand l'entreprise atteint, c'est un peu symbolique, mais 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Parce que ça leur permet à ce moment-là, d'abord, d'aller voir des fonds, de faire peut-être une série A, etc. Mais il faut y aller, il faut les pousser, là.
Justement, quel conseil, alors je pense qu'on vous a posé cette question 200 fois, mais quel est votre conseil pour des entrepreneurs qui démarrent et qui cherchent à tout simplement à lever de l'argent, un petit peu, beaucoup ou pas beaucoup, mais 2-3 conseils ou même un conseil principal?
Déjà, il faut être bien prêt, c'est-à-dire d'avoir bien maturé son produit, son marché. Il faut avoir préparé, il faut avoir déjà constitué une amorce d'équipe, parce qu'on ne fait pas seul, hein. C'est quand même difficile aujourd'hui. Donc, généralement, il faut avoir déjà autour de soi une ou deux personnes qui vont vous accompagner, qui vont être vos associés. Donc ça doit être aussi bien préparé, s'assurer que la cohabitation avec ces personnes va bien se passer, parce que là aussi, on voit au bout de quelques temps des associés qui se séparent, et ça peut être très nuisible à l'entreprise.
Je suis pas forcément, effectivement, j'ai jamais trop compris les associations à 14, à 4, à 3.
Non, mais vous voyez, il faut quand même, vous avez pas tous les talents. Donc, vous voyez comme un CEO, comme le patron, mais ça doit s'appuyer, souvent ça s'appuie parce qu'il y a beaucoup de tech aujourd'hui sur un bon CTO.
Donc, il y a besoin de.
Voilà. Et puis, peut-être un développeur commercial, etc. Donc, et puis, c'est moins de solitude aussi, d'une certaine manière, de partir comme ça. Voilà. Mais s'assurer que vous avez eu le bon team, parce qu'il y a malheureusement des catastrophes. Ensuite, il faut bien préparer aussi les éléments, les arguments, parce que les gens qui vont vous écouter, avant de donner leur argent, il faut que vous les convainquiez, quoi.
Bien sûr.
Alors, ça veut dire beaucoup de conviction soi-même, il faut y croire très profondément.
Et adapter son discours aussi à la personne qui nous écoute.
Oui, absolument. Ouais. Ça, je ne sais pas s'ils le font toujours, d'ailleurs. Parce qu'ils ont un pitch, vous savez, ils se préparent quand même à ce pitch. Voilà. Et puis, face à l'obstacle, persévérer.
Bien sûr. En parlant d'obstacles ou de... Non, c'est pas un obstacle. La notion d'échec ressort beaucoup en ce moment. Enfin, je pense qu'on essaye de sensibiliser les gens à l'échec, beaucoup plus qu'à une époque. On est en train de suivre un peu une mouvance américaine. Aux États-Unis, par exemple, on dit si t'as pas échoué une première fois, j'investis pas dans ta boîte. C'est un peu poussé à l'extrême, mais la notion d'échec aujourd'hui, ça vous inspire quoi?
Alors, déjà, je trouve qu'il y a une grande évolution dans les mentalités en France, et je m'en réjouis, parce que par exemple, quand je reçois un candidat à un poste pour être salarié dans une entreprise, et s'il a fait une tentative pour créer sa boîte et qu'il a échoué, avant, mais il y a peut-être 10 ans, on m'aurait dit certainement pas, il est marqué par son échec, on n'en veut pas, etc. Aujourd'hui, on commence, comme les Américains, à considérer que ça a été pour lui une expérience...
Il a
vécu beaucoup de choses en raccourci et qu'il a appris beaucoup de choses. Mmh. Donc aujourd'hui, nos clients, c'est-à-dire les entreprises, sont pas fermées. Alors, enfin, après que la personne ait les qualités qu'on souhaite, mais elles ne sont pas fermées, alors qu'avant, il y aurait eu, vous voyez, un niet d'emblée, parce que c'est quelqu'un qui avait créé sa boîte et qui avait échoué. Donc ça, c'est bien. C'est une bonne mentalité. Alors après, dans les gens... Alors, il y en a peu, d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir ça, peu qui, après avoir échoué, ont envie d'aller vers le salariat. Ils y vont peut-être un peu...
Un
peu, parce qu'ils ont besoin de vivre, contraints et forcés. Mais beaucoup de cas que je connais, ils vont recommencer. Vous voyez, c'est ce que tout à l'heure je vous disais.
C'est un syndrome, en fait.
Quand on est entrepreneur, on l'est profondément. Et donc, ils vont réessayer. Mais je salue le fait qu'il y a plus d'ouverture aujourd'hui dans les entreprises françaises par rapport à cette notion d'échec. Quoi.
Et vous, est-ce que vous avez déjà eu le sentiment d'avoir vécu un échec dans votre vie?
Ah, bonne question. pas gros échec, je crois, parce que ça ne me... je pourrais dire, par exemple, je ne sais pas si c'est un échec, je crois que je ne l'ai pas vraiment voulu, mais mon cabinet est resté assez franco-français, par exemple. Je n'ai pas su faire d'international. Est-ce que c'est un problème de génération? Est-ce que c'est... Voilà. Donc, ça aurait pu. Ce n'est pas un échec, mais...
Qu'est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on pourrait faire encore de plus au niveau politique? Alors, même si je n'aime pas ce terme de politique, mais qu'est-ce que les institutions pourraient faire encore? Tout à l'heure, on parlait de libérer un peu les entreprises, etc. Oui. Mais est-ce que vous auriez des idées clés et vraiment pratiques, pas des trucs trop théoriques?
Ouais, non, j'ai pas vraiment réfléchi au sujet, donc je veux pas parler de manière superficielle. Mais libérer l'entreprise, ça me paraît vraiment prioritaire. Et je trouve que ce gouvernement actuel ne l'a pas fait assez. Vous voyez, redonner. Il y a beaucoup de choses que il faut faire confiance aux chefs d'entreprise et pas leur imposer toujours des choses.
Des charges.
Il y a les charges, mais il y a plus que ça. Il y a dans la législation, etc. Faire confiance à leur capacité à se développer. Moi, je suis assez profondément libérale, quoi. Et je trouve que la France en manque. Hein, c'est,
Ben, notamment par les interdictions de gestion ou des choses comme ça après un premier échec.
Oui, je trouve que l'État a trop de puissance en France, quoi. Il y a des choses régaliennes dont il doit s'occuper, ça je comprends, mais après décentralisons, quoi.
Bien sûr. Bien sûr.
Ce que je vous ai pas dit aussi, peut-être tout à l'heure, c'était que forte de mon expérience de business angel et de ma cohabitation avec les startups, j'ai créé, et ça va être lancé incessamment, une offre spéciale pour les startups. C'est une autre marque, mais qui est abritée par ma société Chantal Baudron, ça va s'appeler Dream Team by Chantal Baudron, parce qu'il faut rassurer. Et donc, une offre qui est assez multiple et qui est plus large que le recrutement, puisqu'elle va comprendre ce que j'appelle l'assessment, l'évaluation, c'est-à-dire d'éviter aux entrepreneurs de se tromper en choisissant dans leur réseau ou en choisissant des gens sur les job boards sans avoir assez vérifié les qualités. Mm-hmm. Donc ça, on peut les aider en voyant les personnes et en faisant des contrôles de référence. Après, il y a le recrutement classique, deuxième produit. Troisième produit, la DRH à temps partagé, parce que pendant une longue période, les startups n'ont pas les moyens de se payer un DRH à temps complet. Mmh. Et en même temps, ils sont noyés dans le maquis de la législation. Et donc, les aider en leur apportant cette prestation, selon la taille, une journée, deux journées, etc. Ensuite, le coaching, avec sous trois formes. Le coaching qui est un aspect qui est centré sur le développement commercial, un autre sur le développement personnel et un troisième sur la prise de parole.
D'accord.
Parce que à un moment, certains ont besoin d'être accompagnés, surtout quand ils vont rencontrer des fonds pour leur pitch, etc.
C'est génial.
Et ça, pour ce coaching-là, je m'appuie sur une start-up, parce que je travaille beaucoup en réseau, dans laquelle j'ai investi, qui s'appelle Yapuka, et qui a une grande quantité de coachs. Et ils ont commencé par le marché des étudiants qui préparent les concours des grandes écoles et qui ont une épreuve d'entretien, qui est très importante. Donc, cette préparation-là, après, ils sont passés au premier emploi. Et moi, je vais les utiliser pour le coaching prise de parole pour mes start-upers.
Formidable. C'est moi qui remonte un petit peu dans l'interview aussi. La fonction de DRH, j'ai l'impression, à travers les expériences professionnelles que j'ai pu avoir, j'ai eu le sentiment qu'il y a eu une sorte de cataclysme dans les entreprises. La fonction de DRH a, enfin peut-être pas un cataclysme, le terme est peut-être un peu fort, mais j'ai le sentiment que les DRH, ça devient de plus en plus dur d'être DRH aujourd'hui. Est-ce que je me trompe ?
De plus en plus dur, pourquoi ? Je veux dire, pour la personne, pour...
Pour la personne, mais aussi de déterminer ce que c'est que la direction des ressources humaines au sein d'une entreprise. C'est-à-dire, d'accord, c'est devenu, de ce que moi j'ai pu voir, j'ai le sentiment que c'est devenu une fonction beaucoup plus vaste qu'elle ne l'était à l'époque.
Ça, vous avez raison, mais c'est pas plus dur. C'est plutôt plus valorisant. C'est-à-dire que moi, j'ai assisté à l'évolution
de cette
fonction.
Mais tout le monde n'est pas capable de remplir la fonction, en fait. C'est ça le sujet.
Moi, je trouve qu'il y a une évolution très positive pour les DRH. C'est-à-dire qu'au début, c'était plutôt, vous savez, les directeurs du personnel qui s'occupaient de la législation sociale.
C'est ça.
Pour caricaturer, vous savez, on disait l'ancien militaire, etc., qui était recruté. Vous n'avez pas connu d'être jeune, mais c'était un peu l'esprit. Voilà. Mmh. Aujourd'hui, le DRH est une fonction clé dans l'entreprise. Et elle a acquis des titres de noblesse, parce que le DRH fait toujours partie du comité du CODIR ou de l'instance, en tout cas, dirigeante. Il est souvent très proche et complice, si je peux dire au bon sens du terme, du dirigeant. Et d'ailleurs, on le voit, parce que quand un dirigeant arrive, souvent, il change le DRH, parce qu'il a besoin d'avoir une personne de confiance, etc. Ouais. Ensuite, le DRH a été fortement impliqué dans la transformation des organisations, des entreprises.
C'est ça.
Et ça lui a donné donc une fonction, une place plus importante. Mmh. Et ce qui est nouveau, c'est que je vois des DRH devenir dirigeants. Vous voyez ?
C'est ça.
Voilà, j'ai même fait un petit déjeuner, je fais comme ça régulièrement des petits déjeuners sur des thèmes, qui s'appelait un itinéraire singulier de la DRH à la présidence. Et c'était un garçon qui avait été DRH de SFR, qui ensuite en était devenu le président, qui animait ce petit déjeuner. Et il n'est pas un cas unique, je l'avais choisi lui parce que je le connaissais, mais j'en vois d'autres. Et je me dis, voilà, c'est bien, c'est une belle évolution. Alors que le métier soit pas simple, je vous l'accorde, mais la fonction vraiment a été valorisée.
Oui, quand je disais pas simple ou difficile, c'est qu'il y a des gens qui pensaient pouvoir être DRH et en fait qui ne sont plus adaptés à ce milieu
parce qu'il
est nécessaire d'évoluer.
D'ailleurs, il y a eu beaucoup de changements dans cette fonction.
Énormément. Mais ce que vous dites sur le fait qu'il y ait des DRH qui deviennent présidents, c'est plutôt encourageant parce que ça montre que dans cette ère digitale, ce monde digital, on revient
aussi
à
l'humain. Oui. Ouais. Absolument.
Est-ce que vous avez un défi aujourd'hui ?
Un défi ?
Oui.
J'ai des défis quotidiens. Je ne vais pas dire que j'ai un grand défi. Dans les défis, il y a le fait que aujourd'hui, moi, je peine un peu dans mon cabinet pour la raison que je vous indiquais, à savoir la concurrence de LinkedIn. Donc, j'ai à cœur de faire en sorte que cette entreprise retrouve sa vitesse de croisière et marche bien. J'ai un autre défi, c'est la transmission de l'entreprise, parce que là, je viens où il faut penser à sa suite. Donc ça, c'est aussi un sujet important. Et j'espère pouvoir le construire avec les collaborateurs en place. Et puis, en gros, pour l'instant, c'est ce qui m'occupe. Voilà. Mmh. Ouais.
On a bientôt fini, parce que je sais que vous êtes très, très prise. Je pose généralement à mes invités toujours deux questions. C'est un coup de cœur et un coup de gueule. Alors, le coup de cœur, ça peut être un coup de cœur, peu importe lequel, ça peut être humain, ça peut être littéraire, ça peut être cinématographique, ça peut être peu importe. Mmh. Et puis le coup de gueule, vous n'êtes absolument pas obligé d'en passer un, mais voilà, quelque chose que vous avez envie de dire de manière la plus libre possible. Mmh.
Alors, dans coup de cœur, ça veut dire quelque chose... J'essaie de voir ce que vous mettez derrière. Mmh. C'est quelque chose pour lequel que j'aime beaucoup, que...
Oui, ça peut être en fait, j'ai adoré ce livre, j'ai adoré cet article, ce film, cette musique, peu importe. Hein. Ou même cette rencontre, en fait.
Oui.
Ça peut être ça, pour vous, concernant, ça peut être ça.
Alors, aujourd'hui, je vis plutôt avec des coups de cœur, mais ils sont multiples.
Ouais. Pour des c'est un peu pareil, hein, je vous rassure.
Pour des entrepreneurs, vous voyez, pour des entrepreneurs. Vraiment, j'ai eu des coups de cœur. Ça veut dire que je sors de l'entretien et je me dis vraiment, il est formidable, il faut l'aider. Voilà. Mmh. Et un coup de cœur, c'est-à-dire que j'y mets plus que de la réflexion d'investissement. Je me dis, c'est une personne que j'ai envie de...
Et alors, justement, sur ça, petite parenthèse, vous pensez pas que c'est féminin, ça ?
C'est possible. Oui.
Le même. Moi, me concerne. C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir des coups de cœur, en fait, de fonctionner par coup de cœur. Et je me demande, mais est-ce que les hommes fonctionnent comme ça aussi? J'ai un doute.
Vous avez raison de dire ça, parce que quand je vois. Enfin, je fréquente beaucoup les investisseurs et beaucoup sont des hommes. Et ils ont une pensée, effectivement, ou une approche, en tout cas, du problème, beaucoup plus rationnelle. Mmh. Et beaucoup plus financière, souvent. Mmh. Moi, on pourrait me reprocher de me laisser emporter. Je dis quelquefois, ma part d'ange l'emporte parfois sur ma part de business. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, peut-être que je suis ou naïve ou je ne sais pas, mais je trouve que c'est important aussi de réagir avec son cœur, et pas que son intelligence. Donc, voilà ce que je pourrais dire pour les coups de cœur. Ils sont multiples, comme je vous le dis.
Et un coup de gueule, alors, entre guillemets.
Un coup de gueule, alors je cherche, là. Oui. Un coup de gueule
contre quoi? Quelque chose qui vous agace? Peu importe, quelque chose qui vous choque, qui vous agace, qui...
Les gilets jaunes. Ah oui, vraiment. Je crois qu'il y a d'autres façons. J'étais très, très choquée par toute cette dégradation, par...
La violence.
Je ne suis pas contre la protestation, je ne suis pas contre... Mais vraiment, tout ce qui... Dès l'instant où on réagit en bloquant l'économie, on réagit en détruisant les choses qui existent, mais je suis scandalisée, vraiment scandalisée. Alors, je prends les gilets jaunes parce que c'est la dernière expérience à laquelle je pense, mais il y en a eu d'autres, hein, d'autres exemples de cette nature. Mais je trouve qu'on n'a pas le droit de toucher à ça, quoi.
Toute dernière question. Le plus beau jour de votre vie, c'était quoi?
Le plus beau jour? Oh là là! Oh, je crois que je vais dire quand j'ai mis au monde mes enfants. Je le dis parce que je suis une femme, effectivement. Un homme ne pourrait pas le dire. Mais vraiment.
Oh, bah si, vous pourriez dire la naissance de mon fils.
Je trouve que c'est l'expérience la plus exceptionnelle, quoi. Mmh. Voilà.
Chantal Brodron, merci beaucoup pour cet échange. J'étais vraiment ravie et très bonne chance et bonne route pour la suite.
Ce fut un plaisir partagé. Merci à vous.
Merci.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.